VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 23 juin 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, jugé aujourd'hui à Abidjan pour divulgation de fausses nouvelles.
Au sommet de la solidarité envers les réfugiés en Ouganda, appel du secrétaire général de l'ONU pour une fin de la guerre civile au Soudan du Sud.
Au Maroc, de plus en plus d'ONG et associations de défense des droits de l'homme dénoncent la répression du mouvement Al-Osema.
Ici à Washington, le président Donald Trump met fin au suspense. Il n'a aucun enregistrement, assure-t-il, de ses conversations privées avec le directeur limogé du FBI.
Et puis les républicains du Sénat, après ceux de la Chambre basse, ont dévoilé leur propre projet d'abrogation de l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ex-président Barack Obama.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, doit être jugé aujourd'hui à Abidjan pour divulgation de fausses nouvelles après avoir annoncé la disparition de prisonniers politiques dans le pays. C'est ce qu'a dit hier son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadjé. Michel Gbagbo sera jugé en même temps que Laurent Despace, directeur général du site d'information Kwasi.com. C'est à ce site que M. Gbagbo avait accordé une interview sur la disparition de prisonniers politiques.
Les dirigeants sud-soudanais doivent mettre un terme à la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Tel est l'appel lancé hier par le secrétaire général de l'ONU en Ouganda, où se tient le sommet de la sécurité envers de la solidarité envers les réfugiés. Précision de Michel Joseph.
Les leaders du Soudan ne méritent pas de diriger leur peuple, a déclaré Antonio Guterres lors de sa visite dans un centre d'accueil de réfugiés sud-soudanais du nord de l'Ouganda. Le secrétaire général de l'ONU a écouté les témoignages d'enfants réfugiés. Ceux-ci ont parlé de leurs problèmes, allant de la pénurie de médicaments et de vivres au manque d'installations sanitaires adéquates. Le peuple souffre énormément dans cette interminable guerre, a martelé Guterres, avant d'ajouter « Il est temps qu'elle cesse ». Plus de 900 000 Sud-Soudanais fuyant les violences ont franchi la frontière ougandaise au cours de l'année écoulée, des femmes et des enfants pour la plupart. Le sommet de la solidarité envers les réfugiés de Kampala vise justement à attirer l'attention sur le sort des millions d'entre eux à travers le monde. Le gouvernement ougandais et l'ONU disent avoir besoin de 8 milliards de dollars sur les 4 prochaines années pour faire face à la situation. Jeudi, l'Union européenne a promis une assistance de 94 millions de dollars.
Au Ghana, la Cour suprême juge inconstitutionnelle la présence de deux anciens détenus de Guantanamo présents à Accra depuis janvier 2016. La Cour estime que leur transfert dans le pays aurait dû être approuvé par le Parlement. Abdourahmane Dia.
La juge Sophia Akufo ordonne au gouvernement de soumettre une demande au Parlement qui approuvera ou non leur présence au Ghana dans les 3 mois. Dans le cas contraire, les deux détenus devront retourner aux États-Unis. Binatef et Salih Al-Doubi, deux Yéménites, ont été les premiers détenus à être transférés dans un pays d'Afrique subsaharienne sous la présidence de Barack Obama, qui avait promis de fermer le camp de Guantanamo. Toutefois, peu de pays ont accepté de recevoir les anciens détenus, rendant leur transfert parfois impossible. Une quarantaine de personnes sont toujours détenues au large de Cuba. Au Ghana, leur présence avait suscité une grande polémique et deux citoyens ont décidé de saisir la justice, estimant que l'ancien président John Mahama avait agi de manière inconstitutionnelle en acceptant leur transfert. Le Sénégal avait également accepté d'accueillir deux détenus libyens de Guantanamo.
Au Maroc, les ONG et associations de défense des droits de l'homme sont de plus en plus nombreuses à dénoncer la répression du mouvement de contestation pacifique qui secoue le nord du pays. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibourg.
Les autorités marocaines font la sourde oreille, mais de plus en plus de voix appellent à la libération des manifestants et à l'ouverture d'une enquête. Human Rights Watch et Amnesty International ont affirmé hier que Nasser Zefzafi, le leader de la contestation, avait été battu et insulté par des policiers marocains lors de son arrestation le 29 mai. Les deux ONG ont exhorté les autorités à enquêter sur les allégations crédibles de violences policières contre Zefzafi. Ces accusations, portées depuis plusieurs semaines par les proches des accusés, ont été à plusieurs reprises rejetées par les autorités marocaines. Cela fait bientôt 8 mois que la province septentrionale d'Al-Hoceima, enclavée et avec un taux de chômage de 20%, est agitée par un mouvement populaire. Les protestataires revendiquent le développement du RIF. Depuis fin mai, la tension est montée d'un cran à Al-Hoceima, comme dans les localités voisines, qui vivent désormais au rythme des manifestations et des arrestations. Selon des ONG marocaines, 135 personnes, accusées notamment d'atteinte à la sécurité de l'État, ont été à ce jour arrêtées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier dans un tweet qu'il n'avait pas enregistré sa conversation avec l'ex-directeur du FBI, James Comey. Ce dernier avait affirmé que M. Trump l'avait exhorté à abandonner l'enquête sur l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Mike Flynn, en rapport avec l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Ce que le président américain a démenti, un enregistrement aurait donc aidé à rétablir les faits. Un procureur spécial, Robert Mueller, enquête sur l'affaire russe et une éventuelle tentative d'obstruction à la justice après le limogeage de M. Comey par le président Trump.
Toujours à Washington, les républicains du Sénat, après des semaines de négociations à huis clos, ont dévoilé, après la Chambre basse, leur propre projet d'abrogation de l'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama, et se sont heurtés immédiatement aux critiques des démocrates et aux réserves publiques de certains modérés et conservateurs de leur propre parti. Dans une tentative de respecter une vieille promesse électorale, les républicains proposent l'élimination de l'obligation de s'assurer, la suppression progressive des subventions fédérales pour acheter une assurance, la suppression de l'impôt aux plus riches imposé par Obama pour financer l'Obamacare et une réduction de Medicaid, l'assurance publique destinée aux plus pauvres et aux personnes handicapées. L'Obamacare ne marche pas, a assuré Mitch McConnell, chef de file des Républicains au Sénat.
L'auteur présumé des coups de couteau portés mercredi sur un policier à l'aéroport américain de Flint, dans le Michigan, dans le nord des États-Unis, avait tenté en vain d'acheter une arme à feu, ont annoncé jeudi des enquêteurs. Le suspect, identifié comme Amor Fatoui, un Canadien et Tunisien de 49 ans, avait acheté le couteau utilisé lors de l'attaque après son entrée aux États-Unis le 16 juin. La police fédérale américaine a dit enquêter sur un acte de terrorisme. Amor Fatoui a créé Al-Akbar, Dieu plus grand en arabe, avant de poignarder un policier dans le cou, puis a crié Allah à plusieurs reprises selon des documents d'inculpation.
La Corée du Nord a procédé aux essais d'un moteur de fusée qui pourrait être adapté en missile balistique intercontinental, a indiqué jeudi à l'AFP, sans autre détail, un responsable américain qui a requis l'anonymat. Mercredi à Washington, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait demandé au cours d'une rencontre avec son homologue chinois que la Chine, seul allié de la Corée du Nord, exerce davantage de pression sur Pyongyang pour mettre fin à ses programmes nucléaires et balistiques.
La chancelière allemande Angela Merkel a qualifié jeudi soir de bon début les propositions de la première ministre britannique Theresa May sur les droits des citoyens européens installés au Royaume-Uni après le Brexit. C'est un bon début, mais bien sûr, il reste encore beaucoup, beaucoup d'autres questions à commenter la chancelière après que Mme May a présenté ses plans sur ce dossier très sensible devant ses 27 partenaires réunis en sommet à Bruxelles. La première ministre britannique a garanti que les ressortissants de l'Union européenne pourront rester au Royaume-Uni après la date effective du Brexit prévue fin mars 2019.
Au Venezuela, un homme de 22 ans a été tué par balle jeudi à Caracas lors des manifestations de soutien de l'opposition à la procureure Luisa Ortega, chaviste entrée en dissidence. Le bilan des morts s'établit maintenant à 75 depuis début avril. Luisa Ortega est menacée d'un procès pour traîtrise après avoir notamment critiqué l'Assemblée constituante mise en place par le président Nicolas Maduro pour mettre fin, selon lui, aux violences et permettre le miracle économique, c'est une citation, qui verra le pays se redresser. Fin de citation. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Mercredi prochain, le Niger compte lever 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, basée à Dakar, au Sénégal. Le taux de remboursement est fixé à 6% et la date d'échéance est prévue pour le 29 juin 2022. Niamey n'a pas encore donné les détails sur l'affectation de ce crédit. Au Cameroun, l'administration douanière et des opérateurs économiques se penchent sur la mise en œuvre de la deuxième phase des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Cette seconde étape marquera le déclenchement du démantèlement tarifaire sur certains produits importés des pays de l'Union européenne. Ces deux partenaires commerciaux visent à terme à créer une zone de libre-échange à l'horizon 2023. Enfin, la Banque centrale marocaine rassure les citoyens du royaume pour le processus de la libéralisation du dirham. Le gouverneur Abdelatif Djouhari a qualifié d'attaque spéculative et d'abus des opérations de couverture de change que les banques locales proposent à leurs clients. Ceci a poussé l'autorité monétaire à exercer un contrôle ponctuel sur les transactions pour couper court à toute tentative de dévaluation. L'agence de notation Fitch Ratings avait souligné que cette réforme aurait un impact limité sur la situation macroéconomique du pays, notamment sur le secteur bancaire, tout en écartant toute possibilité de dévaluation. Selon les données de la Banque centrale du Maroc, les réserves de change actuelles du pays peuvent couvrir plus de 6 mois d'importation.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe des Confédérations hier, les choses n'ont pas bougé dans le groupe B.
Aucunement, Idrissa, ayant tous perdu à leur première sortie, Camerounais et Australiens ont fait du surplace 1-1. André-Franck Zambo-Anguissa a pourtant ouvert le score pour les Lions indomptables juste avant la mi-temps. Marc Milligan égalise pour les Australiens à la 60e sur pénalty. Les deux formations enregistrent un point chacun après deux journées. Même score dans l'autre rencontre du groupe B, Allemands et Chiliens n'ont pas pu se départager. Alexis Sanchez trouve très tôt le chemin des filets pour le Chili à la 6e minute, avant que Lars Stindl ne rétablisse la parité au score pour la Mannschaft à la 41e. Les choses stagnent donc dans ce groupe dominé par l'Allemagne et le Chili. Le Cameroun et l'Australie se doivent absolument de gagner à leur prochaine sortie ce samedi pour espérer se qualifier pour les demi-finales.
Ça bouge sur le marché des transferts. Madinda à l'Asteras Tripolis, Pépé à Lille.
Oui, l'attaquant international ivoirien Nicolas Pépé, 22 ans, a signé un contrat de 5 ans avec Lille. Il évoluait à Angers. Le milieu de terrain international gabonais Lévi Madinda, lui, file à l'Asteras Tripolis en Grèce donc pour 3 ans. Madinda, 25 ans, évolue la saison écoulée au Gymnastic Tarragone en 2e division espagnole. Autre transfert, Jordi Mboula, l'hispano-congolais, quitte le Barça pour l'AS Monaco. Le club du Rocher a déboursé 3 millions d'euros pour arracher la signature de l'attaquant de 18 ans. Jordi Mboula s'est engagé jusqu'en 2022 avec les champions de France.
Équipe nationale du Maroc, un néo-lion dans la tanière.
Effectivement, la FIFA a accordé à l'attaquant du FC Barcelone, Mounir El Haddadi, le droit de porter les couleurs du Maroc. Né le 1er septembre 1985 en Espagne, mais de père marocain, il a représenté l'Aurora le 5 septembre 2014. El Hadadi pourrait donc être convoqué lors de la prochaine sortie des Lions de l'Atlas face au Mali le 1er septembre pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des affrontements à l'arme lourde ont opposé des miliciens et l'armée congolaise à Beni dans le Nord Kivu. Ces combats ont fait au moins 16 morts et 10 blessés et c'est un nouveau mouvement rebelle qui revendique les attaques. Idriss Fall a joint à Beni Omar Kavota, directeur du Centre pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.
Un mouvement qui se dénomme Mouvement national des révolutionnaires. Il s'agit d'une coalition de groupes rebelles et forces négatives armées, Maïma, des terroristes ADF, rwandais de FDLR, des ex-M23 et des prisonniers évadés récemment à la prison centrale de Beni Kangwai. Tous ces éléments se sont réunis pour faire une coalition rebelle et c'est ce mouvement qui multiplie des attaques aussi bien en territoire de Beni qu'en ville de Beni et autour de la ville de Butembo.
Mais qu'est-ce qui a pu fédérer, réunifier tous ces mouvements?
Tous ils s'apprennent à un ennemi commun, l'armée régulière, les institutions nationales, qui les combattent. Et donc, face à un ennemi commun, ils coalisent pour les combattre et au-delà, ils disent aussi arriver à chasser toutes les institutions à place, finalement occupés et dirigés par la suite. Donc, ils sont plutôt par le même sort qui leur est destiné par les forces de sécurité et de défense.
Mais comment se fait-il que le Kivu, d'une manière générale, depuis des décennies, c'est des rébellions M23, CNDD, Laurent Kunda, Mai Mai, ADF Nalu, c'est aussi au Nord Kivu qu'il y a eu le RCD Goma, RCD Kwa et tous les mouvements rebelles ont pied pignon sur rue au Kivu. Pourquoi?
La malchance, c'est que toutes les rébellions qui naissent et qui vont jusqu'à Kinshasa, peut-être par le Nord Kivu ou par le Kivu. C'est à la fois une région stratégique, c'est aussi une région riche en ressources naturelles. Pendant que les groupes armés occupent, ils exploitent de manière illicite les ressources naturelles, l'eau et tout ce qu'on a comme minerais. Il y a le bois, il y a les cacao, il y a les cafés, mais il y a aussi le commerce, les douanes qui génèrent des ressources. Ce sont des zones, finalement, qui permettent au mouvement de s'autofinancer. Le malheur du Kivu, du Nord Kivu, mais aussi ses richesses.
Et c'est malheureux pour les populations du Nord Kivu.
Parce que ce sont des populations qui appellent les loups privés, des déplacés des guerres. Vraiment, la population qui appelle les prix, la population qui a tant souffert des atrocités de ces groupes armés, de ces forces négatives, de ces forces terroristes en émergence dans cette partie du pays.
Omar Kavota, directeur du Centre pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les Maliens saluent le report du référendum constitutionnel à une date ultérieure. Beaucoup d'entre eux souhaitent que l'élaboration de la nouvelle mouture fasse l'objet d'un large consensus avec la prise en compte des préoccupations de tous les Maliens. La plateforme Ante Abana, Touche pas à ma constitution, continue cependant sa campagne, nous dit de Bamako Kassim Traoré.
Le gouvernement malien a reporté le vote pour le référendum constitutionnel à une date ultérieure. Plusieurs raisons expliquent ces reports, mais le gouvernement s'est basé sur la requête de non-constitutionnalité introduite par des députés de l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle. Adamaté Koulibaly, président de l'association Appel pour le Mali.
Le report, c'est une décision sage. Les Maliens n'ont jamais été aussi divisés en ce qui concerne un sujet, une question d'intérêt national. Il ne faut pas abandonner la révision. Nous, par principe, nous soutenons une révision de la constitution du 25 février 92 pour la simple raison que c'est une constitution qui a montré ses limites dans la gestion même des affaires du pays. Le président a pris la décision de reporter la révision. Nous souhaitons quand même qu'il profite de cela pour renvoyer le texte à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture afin que le document puisse faire consensus entre les partis.
Les responsables de la plateforme Enter Abana, organisatrice de la grande marche du 17 juin dernier, ont pris acte du report. Jimmy Kanté, porte-parole de la plateforme Enter Abana.
Nous n'avons jamais demandé un report de quoi que ce soit. Nous avons été clairs depuis le début. Nous avons demandé purement et simplement le retrait du projet de révision constitutionnelle. Ce projet est un recul démocratique. Donc c'est pourquoi nous demandons son retrait pur et simple. Maintenant, si le gouvernement décide de reporter, peut-être que le gouvernement sait ce qu'il fait. En tout cas, cela n'a rien à voir avec notre mouvement. Nous continuons à dire « Enter Abana touche pas à ma constitution ».
Comme tous les autres Maliens, les partis au pouvoir RPM ne voient pas de problème avec ces reports décidés en Conseil des ministres. Abdoulaye Magasouba, secrétaire général de la jeunesse RPM.
Et le RPM prend acte. C'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Nous sommes des Républicains. Nous attendons la nouvelle date qui sera proposée par le gouvernement. Ce que nous avons, c'est un texte qui a été adopté de façon consensuelle parce que toutes les parties prenantes ont été écoutées dans ce projet de révision constitutionnelle. Nous, on a besoin quand même d'une campagne de communication pour mieux essayer le contenu du texte. Je pense que la majorité présidentielle va se pour expliquer au mieux le contenu du texte de cette révision constitutionnelle.
Pour une fois, le président de la République a écouté la rue. C'est ce que pense Django Koulibaly, pour qui la marche du samedi passé a été déterminante.
Le président de la République, il a vu que les gens n'étaient pas trop d'accord et il a pris la décision de reporter. C'est une bonne chose parce que le peuple là apparemment n'est pas d'accord qu'on organise un référendum en ce moment. Donc je pense que la décision du président de la République qui a été prise, c'est une décision très sage.
Le président de la République du Mali trouve que ce report n'est pas synonyme d'abandon de son projet de révision constitutionnelle. Bamako, Sim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Bénin, marche des forces unies pour dénoncer, je cite, les dérives du gouvernement de Patrice Talon, qui serait un mélange de gouvernance autocratique, clanique, d'impunité, de famine et de mépris du peuple. Fin de citation. La marche organisée hier par le Front pour le sursaut patriotique a été soutenue par plusieurs organisations syndicales et politiques. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'ambiance jeudi était plutôt surchauffée. Les travailleurs disent en avoir marre de la misère et du chômage qui se sont aggravés en 14 mois de gestion du pays par Patrice Talon qui avait promis faire bien mieux. On a faim, on est fatigué de cette gestion qui met en veilleuse le social, lancent certains pour montrer combien de fois ils souffrent. La marche a pris corps à la Bourse du Travail avant de s'étendre sur certaines artères de la ville de Cotonou avec des messages hostiles au gouvernement, des jurons qui témoignent certainement de la situation que vivent ces hommes et femmes. Le temps était propice pour les déclarations et c'est le secrétaire général du Parti pour la libération du peuple qui s'y lance avec fougue et colère.
Je salue ici la détermination de ce vaillant peuple, le vrai peuple qui a décidé d'affronter Talon. Nous allons tout faire pour que Agbono comprenne qu'il y a des jeunes qui ont faim, qui ont besoin d'emploi. Depuis qu'il est venu, combien d'emplois a-t-il déjà créé? Par contre, plusieurs milliers d'emplois ont été déjà supprimés. Et on ne sait pas ce qui nous attend demain. C'est pourquoi il ne faut pas se taire.
Les personnalités se sont succédées au micro pour exprimer leurs craintes et leurs revendications. Pour beaucoup, le Bénin mérite d'être mieux dirigé.
Nous sommes déterminés parce que nous avons en face de nous un pouvoir de bonheur, un pouvoir de prière, des gens qui veulent privatiser tout le
autres. Pas question de laisser Patrice Talon privatiser les sociétés d'État.
Lorsque on veut tromper le peuple, on appelle certaines privatisations à fermage. Quand on se réveille un jour, on dit c'est prise en charge. Un autre jour, on parle de confier ou bien de mise en concession, ainsi de suite. On en a marre. Nous avons fait avec Mathieu Kérékou, on l'a vaincu. On a fait avec Yahi, on l'a vaincu. Patrice Talon est venu, il n'y a pas plus d'un an, il n'a pas fait plus d'un an. Nous l'avons déjà vaincu sur le terrain.
La marche n'a pas connu le monde qui était prévu par les organisateurs, qui d'ailleurs pointent du doigt l'arrêté préfectoral qui avait interdit la marche avant que le chef de l'État ne demande expressément au préfet de rapporter la décision et de permettre aux populations de s'exprimer librement. À ceux qui voulaient aussi marcher en soutien au chef de l'État, ce dernier les a appelés à travailler et à porter le programme d'action du gouvernement, seule façon de le soutenir dans la mission qui lui a été confiée. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, quelques 150 000 élèves des écoles secondaires ont passé le concours national de cette année 2016-2017 pour suivre la formation post-fondamentale. Parmi les 80 000 qui avaient échoué l'année dernière, quelques-uns ont pu repasser ce test. La ministre de l'enseignement secondaire indique que les directeurs des établissements qui n'auront pas obtenu 30% lors de la première édition pourront être destitués. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, s'est rendu dans un centre de passation du concours dans la capitale.
Pour entrer au centre de passation du concours national de certification et d'orientation 9e année fondamentale au lycée du lac Tanganyika, trois policiers vous demandent d'attendre la venue du responsable du centre de passation du concours. 423 élèves sont concentrés pour terminer leurs examens qu'ils ont commencé mardi vers 12h. Quelques élèves souriants se dirigent vers le micro de VOA Afrique. Ils ne cachent pas leur joie.
Aujourd'hui, nous avons travaillé les sciences humaines et l'entrepreneuriat, tout découvert. C'était facile.
Cet autre élève, 15 ans, est sûr d'avoir réussi le concours avec le maximum de points.
Je m'attendais à quelque chose de difficile, mais c'est très facile.
Parmi les élèves qui ont passé ce concours figurent aussi quelques-uns des 80 000 élèves qui avaient échoué l'année dernière au même concours. Jean-Marie Ndiokouayo estime qu'il peut réussir cette année.
J'ai vu que les questions posées étaient dans les cours que nous avions étudiés l'année dernière. Certains cours comme le français et un peu les sciences humaines m'ont causé des soucis. Je me suis préparé en suivant des cours du soir à la maison.
Pour le directeur du centre de passation du concours au lycée du lac Tanganyika, tout est bien qui finit bien, Donatien Nyiriko.
Il savait déjà qu'il y a un concours prévu au mois de juin. Voir comment ils travaillent, je vois que les élèves se sont suffisamment préparés. Premier jour, ils ont fait les mathématiques et la langue 2. Deuxième jour, ils ont fait sciences et technologies avec langue in. Troisième jour aujourd'hui, ils font l'entrepreneuriat et les sciences humaines.
La ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a menacé que les directeurs d'école récidivistes qui n'auront pas atteint 30% seront destitués. Pour la ministre Janvier Nirahisha, moins de 30% sur recommandation du chef de l'État s'avère comme un indice d'incompétence pour la direction. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntu de RM Show en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Retrouvez-moi chaque dimanche pour écouter de la bonne musique hip-hop. Oui, l'hip-hop c'est chaque dimanche entre 20h et 21h. De Universel dans RM Show, vous allez déguster de la bonne musique hip-hop. Pas seulement des États-Unis, de l'Europe, d'Afrique, tout le monde fait hip-hop aujourd'hui. RM Show c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VO Afrique. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter aussi au 001 202 205 2633. Vous pouvez nous envoyer aussi des messages WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VO Afrique. Peace Africa!
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Loumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.